et le Maharal. Mon commentaire, c'est le Gouravier que vous avez là, sur un enseignement de Rashi qui est mis en opposition avec l'enseignement de Maïmonide. Alors, deux secondes. On parle de Rashi. Rashi a commenté un verset du Kriyat Shema que nous avons étudié au tableau. Et vous avez le texte ici, en introduction aux deux textes de Maïmonide, dans l'autre page. Bien. Alors, le thème, le sujet général, c'est la connaissance de Dieu. Et il y a deux tests qui s'affrontent. Est-ce que la connaissance de Dieu passe par la connaissance des lois de la nature, la connaissance du monde, ou est-ce que la connaissance de Dieu passe par la connaissance de la Torah? Et nous avons ces deux thèses chez tous les commentateurs et à la racine, dans les Midrashim, desquels ils s'inspirent, en particulier le Sifre que nous verrons tout à l'heure. Alors nous allons suivre, surtout demain, parce qu'aujourd'hui je vais me consacrer à l'exploration des textes eux-mêmes. Mais nous suivrons demain donc sur cette page, et ceux qui ne l'ont pas, on vous la photographiera tout à l'heure, c'est pas grave, mais ceux qui l'ont et qui savent déjà lire, préparez-la, vous avez toute l'indication déjà aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous commençons par l'étude très brève du Pshat, enfin de la traduction du premier chaque paragraphe du Kriyat Shema que vous avez là, avec un commentateur traditionnel. Mais nous aurons surtout besoin de Rashi sur un verset. Ensuite, nous étudierons les deux sources de Maïmonide, une dans les Chodiers de Torah, sur l'amour de Dieu, et l'autre dans le Sefer Amigot, sur la connaissance. Nous verrons qu'il y a apparemment divergence d'enseignement dans les deux sources. Et ça nous servira du deuxième texte de base pour l'étude qui commencera demain, c'est-à-dire la controverse, où il s'agit de savoir si la connaissance de Dieu passe par la science, dans le sens le plus général, connaissance du monde, connaissance des lois, à la limite aussi avec sa place la philosophie, ou bien si elle passe essentiellement par la connaissance de la Torah. Vous comprenez l'importance du sujet en lui-même, et surtout en relation avec le sujet général du séminaire, je pense que ça vous est évident. D'ailleurs, sans se concerter, Michel, dimanche matin, reprendra ce même thème par rapport à de toutes autres sources. Et comme ça a été annoncé, pour dimanche, ce sera le dernier cours d'exégèse, et l'après-midi, nous aurons la table ronde après la conférence sur la philosophie des Lumières et la place du judaïsme dans la modernité. Bien, alors aujourd'hui nous allons faire de la traduction essentiellement, de telle sorte de pouvoir noter les catégories de base sur lesquelles nous aurons à réfléchir demain dans la discussion.
Il y a un cours dimanche matin,
non ? Il y a un cours dimanche matin. Vous avez une affiche sur les... Ah oui, ça n'a pas été marqué. Dimanche matin à 10h30. Rappelez-moi, je le répète encore demain. Alors écoutez, la citation du Kriyat Shema vous a été donné tronqué dans les deux pages. C'est pas grave, je vais vous remettre le plan au tableau très brièvement. En tout cas, la référence, c'est Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 4. Il vous manque dans tous les cas les deux premiers mots que je mets au tableau, c'est Shema Israël. La suite du premier verset, c'est Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dans ce premier verset, nous avons l'affirmation du principe de l'unité de Dieu. Suivent un certain nombre de versets qui vont développer cette première formule, cette première affirmation, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, dans différentes dimensions. Alors, je les lis, et je vais jusqu'au bout, même s'il n'y a pas le texte sur vos pages. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et tu aimeras Hashem ton Dieu, celui qui est ton Dieu, ve'chol levavcha ve'chol nafshecha ve'chol me'odecha, de tout ton cœur, de toute ta personne, de tout ton pouvoir. Verset 6. Ve'ayu advarim ha'ele, et seront ces paroles-là, Asher anochi metzavecha ayom, que je te prescris aujourd'hui, al levavecha, sur ton cœur. C'est-à-dire, elles seront présentes à ta conscience. Elles ne doivent pas quitter ton attention. Bien que, du point de vue de la halakha, nous pouvons déduire un enseignement beaucoup plus précis, en particulier sur un verset analogue, « Elles seront sur ton cœur », c'est la racine du commandement que les tefillines du bras se mettent en face du cœur. Donc sur le bras droit. « Veshinantam levanecha », tu les enseigneras en les répétant autant de fois qu'il est nécessaire. « Shinantam levanecha », tes enfants. Vedibartabam, tu en parleras, Veshiptecha, Vevetecha, lorsque tu es chez toi, ou Vertecha Badere, lorsque tu vas en chemin, en voyage, etc. Et il y a donc tout un ensemble de prescriptions qui développent ce que la tradition du Talmud, qui est déjà au niveau de la Mishnah, appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim Ve'ol Mitzvot, c'est-à-dire qu'ici, en tant que rite, la récitation de ce texte, qui s'appelle le Kriyat Shema, se définit comme étant le rite par lequel, une sorte de proclamation, profession de foi plus exactement, par lequel, littéralement, je reçois sur moi, Kabbalah, je reçois sur moi, Ol Malchut Shamaim Ve'ol Mitzvot, la souveraineté de Dieu et de sa loi. C'est donc un rite très particulier, très précis. Ce n'est pas l'objet de l'étude, d'étudier le rite du Kriyat Shema pour lui-même, aujourd'hui, mais je vais mettre en évidence un enseignement qui vient de la relation des deux versets suivants. Le verset 5, que vous avez donc sur le texte, « Ve'ahavta et Hashem Elokecha »« Tu aimeras Hashem, ton Dieu » et le verset 6, « Ve'ayu advarim ha'ele » et seront ces paroles que je te prescris aujourd'hui sur ton cœur. Quelles paroles? Je vais partir de cette question. Lorsque le verset dit « Ve'ayu advarim ha'ele » et seront ces paroles-là, je vais mettre ça au tableau quand même, le verset. Si je retrouve l'accès, mais je ne vais pas la retrouver. Il y en a... Pardon ?
Votre droite.
Et les livres.
Votre droite pour les papiers.
Ça coûte, c'est pas ta droite.
Voilà le verset Ve'ayu hadvarim ha'ele asher anochi metzavecha ayom alevavecha. Sur quoi porte ce mot ele? Et seront ces paroles. Alors il y a différents niveaux de lecture possibles et chacun d'entre eux est utilisé pour la halakha pour des prescriptions particulières. Premièrement, il s'agira de façon très générale de tout le livre du Deutéronome qui s'appelle le livre de Devarim. Et vous savez que ce livre du Deutéronome, c'est, comme son nom l'indique en français, le Mishneh Torah en hébreu, c'est la récapitulation de toute la révélation de la Torah pour la génération qui va quitter le désert et rentrer en Israël. Et donc, c'est l'ensemble de la récapitulation de l'enseignement de Moïse au dernier moment de sa mission pour la deuxième génération. Et seront toutes ces paroles que je te prescris. J'ai ajouté la première lecture et seront ces paroles tout le livre de Devarim. Tout le livre de Devarim, c'est-à-dire toute la Torah, puisque le livre de Devarim récapitule toute la Torah. Mais il y aurait là une exigence considérable qui consisterait à demander à chaque juif d'avoir présent à l'esprit, jusque dans le détail de chaque mot de la Torah, ce rite de Kabbalat Ol Malchut Shamaim Ve'ol Mitzvot, avoir l'intention de ferveur, la Kavana en hébreu, d'avoir comme souverain sur ma pensée, sur ma volonté, sur les trois facultés de la conscience, comme on l'a dit hier soir, l'entendement, la volonté et la sensibilité, pour ceux qui étaient là hier soir, toutes ces devarim. Vous voyez que nous sommes ici à un niveau de halakha ou de shulchan aruch d'une très grande exigence. C'est le pshat du verset. Vayu advarim ha'ele, et seront ces paroles que je te prescris aujourd'hui. Asher anochi metzavecha ayom. Or, ce jour-là, selon la tradition, Moïse a récapitulé toute la Torah dans le Sefer Devarim. Et donc Devarim a pour exposant tout le Sefer Devarim. C'est clair jusque-là? Bon. Mais on va très très vite redescendre de niveau d'exigence. Parce que cela signifierait que quiconque serait en inadéquation sur un mot de la Torah dans son intention de Kabbalah Tromachou Shamaim Ve'ol Mitzvot serait en faute. Et donc ce serait une trop grande exigence. Alors on va restreindre l'expression Ve'ayu advarim ha'ele. Et seront ces paroles au Kriyat Shema lui-même, à ce passage-là, à ce paragraphe, à ce chapitre. Et nous avons dans la Gemara une discussion que même cela c'est trop. Alors troisième niveau, pas seulement, pas toutefois, je ne sais pas comment dire, tout le paragraphe que je viens de lire, mais les paroles qui précèdent le mot « elé ». C'est-à-dire, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'afta et Hashem Elokecha, Ve'chole Ve'vecha, Ve'nafsho, Ve'nodecha, Ve'ayu Advarim, Ha'ele. Jusque-là sont les paroles qui précèdent Ele. Vous suivez le raisonnement? Okay. Et par conséquent, la Kavana d'intention de Kabbalah, Tronavu, Shavim, Ral Mitzvot, d'ordre de quoi nous serions hors la loi, va être exigée que là-dessus. D'où, sur deux principes. La réception de la souveraineté de Dieu dans la catégorie de l'unité de Dieu, premier verset, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et deuxièmement, le deuxième verset, Ve'ahavta Hashem Elokecha, l'amour de Dieu. Donc nous sommes arrivés au troisième niveau. Il y en a encore un quatrième, parce que même ça c'est trop, suivant certaines opinions dans la Gemara, et j'arrive à la halakha comme elle est maintenant, que la Kavana, dans le rite de Kavana, Omachut Shem Elokeinu, va se restreindre au premier verset. Plus c'est déjà trop exigé, ça ne veut pas dire que ce n'est pas exigeable, mais ce n'est pas exigeable juridiquement, parce que juridiquement, ça signifierait que celui qui n'est plus adéquat à un tel niveau de ferveur serait hors de la communauté. Et c'est trop grave. Voilà quel est le principe. Je schématise cette introduction. C'est très différent d'avoir une faute ou d'être hors de la communauté. C'est clair? C'est-à-dire, si je n'ai pas réussi à être en kavana sur tel ou tel point. J'ai une faute. Mais si le fait d'être en kavana sur tous les points, c'est ça le principe de définition d'identité, alors c'est plus une faute, c'est l'excommunication. Est-ce que vous comprenez la gravité de cette discussion? Alors c'est pourquoi nous voyons que dans la tradition juive, en tout cas, l'attitude des décisionnaires, et donc des théologiens qui traitent de ces questions, c'est de restreindre le plus possible le nombre de ce qu'on appelle les articles de foi. Parce que être en inadéquation sur un article de foi, et si les termes sont clairs, c'est-à-dire sur la définition des principes de qu'est-ce que c'est qu'un juif, alors être en inadéquation sur un article du catéchisme, c'est être en dehors de la communauté, catéchisme entre guillemets. Okay. Maintenant, s'il y a inadéquation sans que la tradition ait défini cela comme un principe sine qua non, pour le dire en chinois, eh bien, il y a une faute. Mais si c'est le principe de l'identité, c'est grave. Ça veut dire qu'on est hors la loi. C'est pourquoi, vous voyez pourquoi cette perspective de l'excommunication dans le sens étymologique, c'est plus possible, elle est, pour l'attitude de la tradition juive, la plus restrictive possible. Et donc, lorsqu'elle joue, c'est que ce sont des cas particuliers, exceptionnels. Vous comprenez le problème? Bon. Mais vous voyez que là, je voudrais ajouter un autre principe qui me semble assez important pour comprendre un peu l'atmosphère, la mentalité traditionnelle juive. C'est ceci. C'est qu'il ne s'agit pas d'un progrès dans le sens du libéralisme, dans le sens positif de ce que serait le libéralisme. Je veux dire d'un progrès des idées. Attendez, je cherche un terme qui serait peut-être plus précis. Une sorte de progressisme, d'humanisme, de civilisé. C'est tout le contraire. C'est un jugement très négatif que nous ne sommes plus capables des niveaux supérieurs. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire là? Bon. Et c'est-à-dire, normalement, c'est la première lecture qui devrait faire force de loi. Ve'ayu advarim ha'ele, c'est toutes les paroles que je t'enseigne aujourd'hui, ça veut dire toute la Torah. Mais comme nous ne sommes pas capables, et à cause de la deuxième analyse, de ce que nous avons vu dans la deuxième analyse. Et alors on risquerait un jugement de perte d'identité alors qu'il n'y aurait qu'une faute de conduite. Alors c'est la raison pour laquelle on va descendre de degré en degré, de degré en degré. Et finalement, la seule chose exigible du point de vue de cette kavana de Rol Malchut Shamayim Ve'Ol Mitzvot, c'est recevoir la souveraineté de Dieu en tant qu'unique. En principe, tout le reste va avec. C'est pour ça qu'on exige que ça. C'est-à-dire, si nous fonctionnons normalement, de ce mot « Ehad » va découler toute la Torah. Est-ce que nous ne fonctionnons pas normalement. Hein?
Mais on ne va pas en tenir acte parce qu'on considère que nous ne sommes pas tellement responsables. Ce que l'histoire a fait de nous fait que nous ne sommes pas susceptibles d'un tel jugement. Et est-ce que c'est clair? Sauf pour un cas particulier.
Que recouvre ce nous?
Ce
recouvre le nous?
Les Juifs. Les Juifs à travers une histoire qui les a coupés de ses soucis. Nous, aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Et alors,
pardon, là, s'il vous plaît, oui. J'ai pas compris le deuxième cas. Le premier, c'est toute la Torah. Le dernier, c'est seulement le premier verset. Et le deuxième, c'est.
Il y a un deuxième et un troisième.
Et le deuxième.
Le deuxième cas, c'est tout le paragraphe.
Le paragraphe de.
Ce qu'on appelle le Kriyat Shema. Oui.
Ah.
Avec une discussion, est-ce que c'est les trois paragraphes du Kriyat Shema ou celui-là seulement? Vous savez, la fameuse discussion de Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, vous verrez tout ça dans la Gemara un jour. Il y a encore une troisième lecture, c'est les deux versets, Shema Israël et Ve'ahavta, jusqu'à Hadvarim. Ad kan tzricha kavana, dit la Gemara. Jusque-là, puisque le mot ailé coupe ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. La quatrième lecture, finalement, c'est le premier verset seul. C'est ce qu'on appelle le Kriyat Shema de Rabbi Yehuda. C'est connu dans la Gemara. Et encore, ça va beaucoup plus loin. Vous verrez en particulier ceux qui se servent du Tfilat HaChodesh de Livourne, où on cite une Kavana de la Gemara, que finalement on ne demande la Kavana que sur le mot Echad. Et aujourd'hui, on ne sait même plus quelle est la Kavana de ce mot Echad, sauf ceux qui savent. Mais on ne va pas confier une tradition uniquement à ceux qui savent. Il s'agit d'un peuple. Vous comprenez la gravité du problème? Alors, on demande simplement de lire ce qu'il y a écrit sans faire de faute d'orthographe. Vous voyez jusqu'où ça va? Mais je voudrais vous dire, c'est un peu ambivalent. Bien sûr, c'est en même temps, c'est aussi une tolérance très généreuse. Okay? Mais c'est aussi un jugement très impitoyable sur le niveau de dégradation d'identité dans laquelle on se trouve. Et c'est pourquoi j'ai fait appel.
De Rabbi Akiba et d'Ishmaël, alors
Oui,
à ce moment-là que ça a été.
Si vous voulez, mais vous savez, à des niveaux différents.
C'est sûr.
Par rapport à Rabbi Akiba, etc. Si vous me permettez, avant de revenir, mais. Je voulais faire jouer cette clause d'irresponsabilité, la formule traditionnelle, c'est que nous sommes considérés comme Tinok chez Nishba Benagoy. Comme des bébés qui ont été volés par les saltimbanques, ils ont été élevés dans une autre culture, allemande, comme dirait Mendelssohn, et par conséquent irresponsables. Voilà grosso modo comment joue cette clause. Mais à propos de ce que vous disiez, les différents niveaux par rapport à Rabbi Akiva, c'est une citation très, très importante, où déjà les Amoraïm disaient en parlant des Tanaïm, je vous l'ai cité une fois, je crois. Enfin, je ne sais pas où, c'est en tout cas dans la classe. Et les Amoraïm disaient des Tanaïm, les Tanaïm, ce sont les maîtres de la Mishnah. Il y a 2500 jusqu'à 2000 ans de nous. Les Amoraïm sont leurs disciples plusieurs centaines d'années après. Les Amoraïm disaient de la Mishnah, si eux sont des anges, ils disaient de leur maître, les Tanaïm, alors nous sommes des hommes. Mais si eux sont des hommes, alors nous sommes des ânes. On a appris déjà que c'est un âne, c'est pas rien. Et alors Maïmonide, en citant les Amoraïm qui disaient ça de leur maître, Maïmonide lui a dit, si eux, les Amoraïm, étaient des anges, nous sommes des hommes. Mais si, si eux sont des hommes, nous sommes des ânes. Et qui parlait Maïmonide? Vous savez en quel siècle a vécu Maïmonide? Alors nous, déjà, qu'est-ce qu'on va dire? Et, vous voyez, je crois qu'il faut prendre au sérieux cela. Et j'aurai certainement à revenir sur ce point dimanche à la table ronde. C'est vrai que l'Assemblée d'Israël, comme on dit, Knesset Israël, c'est une assemblée de Talmidei Chachamim. Mais ça n'a rien à voir avec ce que serait un aéropage d'universitaires dans la civilisation contemporaine. Et ça, ça irait un peu dans le sens de l'épicurisme étymologique. C'est-à-dire que ne sont sauvés, ne sont les élus, je parle un langage profane d'ailleurs, que ceux qui ont la connaissance avec un grand et les autres. Ça n'est pas compatible avec l'univers du monothéisme biblique où il ne s'agit pas d'un professeur qui aurait inventé une université qui serait l'univers, mais d'un créateur qui a créé des créatures. Et par conséquent, le salut, c'est pour toutes les créatures. Et c'est un problème très important. Et par conséquent, vous voyez, et pas seulement pour ceux qui sont capables de passer D'ailleurs, on revient aux ânes, ça s'appelle des peaux d'âne. Bon. Mais il y a là une clause d'irresponsabilité qui est très présente, très lucidement dans la tradition juive. Ce que l'histoire a fait de nous. Et par conséquent, bien entendu, il y a un jugement lucide, chacun avec son dossier. C'est clair. Mais je dis ça pour pas que vous vous affoliez. Dès qu'on commence à pénétrer dans cet univers de la connaissance traditionnelle et de la connaissance tout court, je veux dire en général, alors on risque d'être affolé par ce principe qui est très peu utilisé dans la tradition juive, que le salut passerait par la connaissance. La connaissance est indispensable, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est la bonne volonté. Parce que la bonne volonté peut être, sauf cas pathologique, la bonne volonté peut être la chose la mieux partagée au monde. La connaissance ne peut pas être la chose la mieux partagée au monde à cause de ce que l'histoire fait de nous. Et je crois qu'il est très important de mettre cela en évidence. Bon, alors je reviens donc au problème, ça c'était pour finir de répondre à votre question. Et alors, nous allons étudier Rashi sur l'enjambement de ces deux versets. Je ne voudrais pas trop prendre de temps pour l'introduction, mais si c'est nécessaire de revenir sur tel ou tel point, arrêtez-moi. Aujourd'hui, on explore le texte. Et il est bien évident que l'étude des versets pour eux-mêmes. Alors, vous êtes sur cette page avec Rashi. Hein? Bon, si vous en avez deux, suivez un sur deux et puis...
Non, on l'a pas. Elle n'a pas été mise dans le dossier premier.
Elle n'a pas été mise.
Non.
Il n'en reste vraiment pas, là, de cela.
Qui a
distribué ?
Non, on ne l'a pas.
Bon, ça fait rien. Je vais vous mettre le rachis au tableau, c'est pas grave. Si j'ai un chiffon.
Ben, j'incline.
Très bien.
Oh, là.
Alors voilà ce que je voulais dire, c'est que nous n'allons pas étudier les versets pour eux-mêmes et avec le détail et la précision des commentaires de base que vous avez là. Mais je veux dire ce qui est un peu l'essentiel dans Rashi pour pouvoir nous introduire tout de suite dans l'enseignement de Maïmon. Alors, vous avez premièrement sur le verset 5, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, le Rashi suivant, qui cite le Sifré. Le Sifré, qui est une des recensions du Midrash. Alors, le Sifré enseigne sur ce verset, tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur, etc. Enseigne ceci, assez de varav, accomplis ses paroles, me'ahava. Me'ahava. Le mot de ahava signifie l'amour, on y reviendra, ça veut dire par la motivation de l'amour. Voilà la formule. Assez de varav, me'ahava. Et à quoi veut répondre le Sifré ? Le verset dit tu aimeras. Bon, la difficulté est très claire. Est-ce que l'amour peut être commandé ? Et ça veut dire tu aimeras ? Alors le Sifré explique, ça veut dire quand tu accomplis sa volonté, accomplis sa volonté par la motivation de l'amour, et non pas, comme on va le voir tout de suite, par la motivation de la crainte. Or les deux sont exigés par la Torah. Et avant d'aller plus loin, nous avons là deux thèmes importants. Ahava, pardon, une minute. Ahava, alors en français ça veut dire l'amour, et ira, en français ça veut dire la crainte. Et les mots ayant leur sens simple. L'amour, c'est l'amour, la crainte, c'est la crainte, je sais qu'il y a une pudeur concernant la crainte, à cause de la controverse judéo-chrétienne, où on oppose le dieu d'amour au dieu de crainte, mais crainte, ça veut dire crainte, ira, ça veut dire ira, et j'essaierai d'expliquer tout à l'heure. Que vous vouliez demander ? Oui, si vous voulez. Quoique la conduite d'amour a en elle-même sa propre récompense, donc on ne peut pas éviter de penser qu'il y a récompense. Mais c'est un autre problème. Et assez de varav me'ahava. Et là, nous sommes déjà sur un premier point important de ce problème de la connaissance de Dieu. Nous allons prendre comme postulat que la connaissance directe, et peu importe qu'on la définisse comme la connaissance intellectuelle, intelligible ou sensible, la connaissance directe de Dieu est réputée être, par tous les enseignants, comme inatteignable. Et donc, il y a une connaissance médiate. Alors, se substitue à la connaissance directe deux médiations, deux expériences, qui sont l'amour et la crainte comme expérience de connaissance. Est-ce que le postulat est suffisamment clair? Ces deux expériences de connaissance sont authentiques, et elles sont réclamées toutes les deux par la Torah, et tout de suite j'essaierai d'expliquer, mais ici nous avons une source du Sifré qui nous dit, ah oui, mais nous avons un verset, Ve'ahavta, qui suit tout de suite le verset, qui vient tout de suite après le verset, Shema Israël, Hashem Elkeinu, Hashem Echad, et donc ça signifie qu'il vaut mieux servir Dieu par amour que par crainte. Ça ne disqualifie pas la crainte, comme nous allons le voir aussi chez Maïmonide, parce qu'elle est aussi indispensable, mais il y a une sorte de préférence. Et voilà comment le Sifré l'explique, et je reviendrai ensuite là-dessus. C'est... Oui. C'est juste la suite. Enodomé. Enodomé ne ressemble pas au Semehava, celui qui accomplit par amour, là aussi, à celui qui accomplit, mais il est là, par crainte. La suite, à aussi, celui qui accomplit, et c'est rabot, ce que lui demande son maître, celui qui agit devant son maître, mais il ira par crainte, et chez vous, matriar alav, lorsque matriar, ça veut dire lorsqu'il embête, Torah, Beatria, je ne comprends plus, je ne sais pas le dire en français. Hein? Embêter quelqu'un.
Hein? Déranger.
Déranger, plus que déranger. Oui, j'ai compris. Il y a un mot en français, mais je n'ai pas joué. Bon. Et alav, le menicho, il l'abandonne, il le laisse, veolechlo, et il s'en va. Alors, ça va loin. Ça veut dire que bien que la crainte, et ça il faut expliquer, soit nécessaire, il vaut mieux servir par amour, parce qu'en fin de compte, ne servir que par crainte, finalement, peut... devenir un point qu'on s'en lasse. C'est une explication un peu difficile quand même. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu va nous embêter avec sa loi? Et alors, à la fin, on dira, eh ben, y a trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, et on s'en va. Donc il y a ici une relation entre la subjectivité de l'expérience, de la relation au maître, ici, si elle est ressentie par amour ou si elle est ressentie par... Est-ce que cette lecture que nous donne le Sifré suffit à répondre à notre question? La difficulté était qu'il y a un commandement d'amour. Est-ce qu'on peut commander l'amour? C'est un autre problème. C'est un autre problème et je pense qu'on ne pourrait le comprendre facilement que dans la perspective suivante. Je me réfère ici à un enseignement de Venogros. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Venogros.
Non.
Oui. Ah ouais, c'est vrai. Mais je ne sais pas si c'est à la. Non, je ne suis pas là. Je ne sais pas si c'est à la télévision, ma fille, qu'il l'a dit. Mais en fait, je l'ai entendu à Jérusalem. Il dit ceci. Le commandement d'amour peut être compréhensible en tant que commandement à l'intérieur de la réciprocité. C'est-à-dire, pourquoi Israël peut être sensible à cette obligation d'avoir à aimer Dieu, c'est dans la mesure où Israël sait que Dieu l'aime. C'est-à-dire, à l'intérieur de la réciprocité, alors l'idée que l'amour peut être une obligation, ça commence à devenir un peu intelligible. Est-ce que c'est clair? Bon. Vous remarquerez d'ailleurs à quel point la tradition a tenu compte de cela, puisque les bénédictions qui précèdent la récitation du Kriyat Shema, c'est Ohev et Amo Israël Be'ahava, Shema Israël Be'ahavta. C'est-à-dire, on rappelle d'abord que l'expérience de l'histoire montre que il y a amour de Dieu pour Israël, et vous entendez le caractère colossal de la foi. L'expérience de l'histoire montre qu'il y a amour de Dieu pour Israël. Si nous n'avions pas tous les versets des prophètes qui en parlent, on ne pourrait pas dire cela. Parce que jusqu'au bout, apparemment, l'expérience de l'histoire pourrait montrer aussi l'inverse. Vous connaissez l'enseignement du prophète Malachi. Ahavti etrem neum Hashem. Vatem amartem bame ahavtan. Voilà, c'est la fin de la prophétie. Voilà ce que Dieu dit à Israël dans Malachi. Je vous aime. Donc, déclaration. Okay? Je vous aime. Et vous, vous dites en quoi vous nous aimez. Et le Midrash explique beaucoup. En quoi tu nous aimes. Et en quoi tu nous aimes. Avec le pharaon, avec Aman, on continue.
Ahavti, c'est un passé.
Ahavti, ok. Ahavti etrem. Et si, un passé de Dieu, c'est de l'éternel. Je vous ai aimé, c'est irréversible. Les promesses sont sans repentance. Et l'amour aussi. Si Dieu a dit je vous ai aimé, ça continue. Vous comprenez? Et alors, là.
Elle veut poser une question, elle veut que je la pose pour elle. Je ne veux pas la poser pour elle.
Là, lorsque nous disons, de façon...
Mais c'est elle qui me dit pose là, mais...
Lorsque nous disons, de façon ça, tranquille, il faut bien comprendre que personne n'est dupe. L'apparence de l'histoire pourrait être le contraire. C'est qu'il faut donc avoir une certaine mémoire pour savoir qu'il en est plutôt ainsi que ainsi. Et je pense que c'est clair. Il y a une option, malgré tout. Et les prophètes en tiennent compte. Ahavti etrem neum Hashem, vaatem amartem bame ahavtan. Avec qui? Avec Torquemada, avec Hitler, et on continue, ouais, c'est pas fini. Vous voyez quel est le problème. Et tu réponds tranquillement. Il y avait un frère à Jacob et il s'appelle Ésaü, et c'est Jacob que j'ai préféré et pas Ésaü, vous verrez bien. Et vous voyez la suite du cours. Mais dans tous les cas, je reviens sur ce principe de Pélagros, dans la mesure où il y a expérience de la réciprocité, alors il peut y avoir un fondement, une base à l'idée que l'amour puisse être un commandement d'obligation. Vers Afta, c'est une mitzvah assez. Okay. Oui. Plus fort.
Il y a quand même quelque chose qui est très simple, c'est que le schéma est un impératif, mais derrière ça, le départ.
Alors, je veux dire, là, malgré tout, c'est traduit comme si c'était un impératif.
Ce n'est pas un impératif.
D'accord. C'est vrai. Mais là, ça ouvre un autre problème, c'est pourquoi les commandements dans la Torah sont en général formulés au futur. Ce qui est le cas. Par exemple, l'otirtzach, c'est pas non plus un impératif, c'est un futur. Dans les grammairiens peuvent dire qu'on s'en sert comme impératif, mais la forme formelle reste un futur.
Et là, c'est différent, c'est un passé converti.
Oui, mais il n'en reste pas moins que c'est la forme du futur. Et là, je vais simplement dire un peu, à mon sens, à quoi ça se réfère. Il y a toujours deux niveaux. Lorsque la Torah s'adresse à l'individu à travers la collectivité, alors l'individu reçoit le futur qui va pour la collectivité, qui est un futur de promesse, le reçoit comme impératif. Mais c'est un autre problème, si simplement je l'indique à quel niveau. Il y a, si vous voulez, l'analyse serait la suivante. Le fait que la loi s'adresse à moi, ou en termes plus philosophiques, si vous voulez, le fait que ma conscience soit sensible à la valeur, c'est déjà en soi une promesse que la loi considère que je peux l'accomplir. Sinon, elle ne s'adresserait pas à moi. Et par conséquent, le seul fait que j'entende l'impératif, c'est déjà un futur de promesse. Sinon, ça ne me concernerait pas. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Mais il y a cependant deux niveaux. Le futur de promesse, c'est pour la collectivité. Tu seras comme ça. Mais l'individu entend ce futur de promesse comme impératif, parce qu'il faut qu'il réajuste son identité individuelle au modèle de l'identité collective à qui la promesse a été faite. Et c'est dans cette tension-là que l'impératif apparaît. Si j'ai bien compris ce que Joël voulait dire, mais il le dira lui-même, c'est que si tu réalises Hashem el-Kun Hashem Echad, résultat ve'afta, ça vient comme conséquence.
C'est ce que dit Maïmonide.
Bon, eh bien, tu vois que nous sommes en bonne compagnie. mais il n'en résulte pas moins que Maïmonide lui-même va nous dire tout à l'heure qu'il y a une mitzvah là. Il y a une mitzvah. Bon, alors, ce chapitre du futur impératif est très important pour lui-même. C'est un autre chapitre, mais il faut bien le comprendre. De nouveau, nous avons ce principe, la différence entre le klal et le pral. Parce que la Torah s'adresse au klal, elle promet. Et puis, c'est cette promesse qui est entendue comme commandement par l'individu. Le commandement devient celui à qui la promesse est faite. Si c'est suffisant. Et dès qu'on est devenu celui à qui la promesse est faite, la promesse s'accomplit. Ce qui touche à un tout autre mystère, pourquoi la promesse ne s'accomplissait pas? Puisqu'une promesse de Dieu, est-ce qu'elle a besoin de temps pour s'accomplir? C'est le temps de quoi? C'est le temps pour la créature de devenir celui à qui la promesse a été faite. C'est clair. Dieu s'adresse à Jacob, et il lui dit, je paraphrase, hein, Dieu s'adresse à Jacob et lui dit, voilà ce que tu auras, toi Israël. Alors deviens Israël et tu auras. Ça y est, c'est clair. C'est important de voir que Jacob est le seul patriarche dont le nom deviendra Israël. Alors tout se passe comme si nous naissons comme Jacob et nous devenons Israël. Et les promesses ont été faites à Israël, mais elles s'adressent à Jacob. Donc il suffit que Jacob devienne Israël pour que la promesse s'accomplisse. Et vous voyez, c'est un problème très difficile en théologie. Comment se fait-il qu'il faille mériter une promesse? Vous voyez la contradiction? Eh bien, il ne faut pas mériter la promesse, si j'ose dire. Quoique, c'est quand même ça. Mais il faut mériter d'être celui à qui la promesse a été faite. Mais il n'y a que Jacob qui deviendra Israël. Donc c'est bien à lui que la promesse est faite. C'est clair. Si vous permettez d'allonger un peu la petite parenthèse, mais qui est, je crois, importante, c'est ce que Rashi enseigne lorsque Jacob revient de chez Laban. Et qu'il va recevoir le nom d'Israël. Jusque-là, il n'avait pas reçu le nom d'Israël. Dans la rencontre avec Ésaü et avec la lutte avec l'ange. Et Rashi dit très exactement cela. Aim Lavan Garti Vaecha Avata. Il y a deux explications dans Rashi, mais les deux nous concernent d'ailleurs, mais une surtout que je mette en évidence. Aim Lavan Garti, j'ai séjourné chez Lavan, vous vous rappelez? Et Rashi dit Tariad Mitzvot Shamar. J'ai préservé les 10 commandements, les 613. Qui sont d'ailleurs les 10 à la puissance 613. Et c'est exactement le même thème. Lorsque Jacob vient et dit j'ai réalisé la Torah, alors il mérite le nom d'Israël. Vous voyez, quelle différence il y a entre Jacob et Israël? C'est Moïse. La différence entre Jacob et Israël, c'est Moïse, c'est-à-dire la Torah. C'est clair? Donc, alors on revient à notre problème. Je termine là-dessus. C'est, si vous voulez, s'il y a réciprocité, disons, s'il y a expérience de réciprocité, de l'expérience de réciprocité vient le sentiment de l'obligation à avoir à aimer. C'est-à-dire, c'est celui qui est aimé qui a obligation d'aimer. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un peu débordé la définition de Benno Gross avec Malachi, mais c'est une des raisons pour lesquelles les prophètes insistent tellement. Sachez que Dieu vous aime. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas évident, mais les Juifs savent, bien que ce soit pas évident. Il y a donc là une mémoire, qui est en même temps une prophétie, si j'ose dire, une expérience de prophétie, qu'en dépit de toutes les apparences, il y a cette relation d'amour. Et j'avais l'habitude de dire aussi de cette manière. Vous savez, nous avons une phrase dans la prière du matin. Vous allez tout de suite reconnaître. Ashrenu, Matov Helkenu, Manaim Goralenu, Mayafa Meod, Yerushalayim. Il suffit qu'on traduise pour voir qu'est-ce que c'est l'humour juif. Voilà. Tous les matins, on dit comme nous sommes heureux, comme il n'y a pas mieux que nous, comme quelle félicité. Il suffit de voir ce qu'est l'histoire juive pour comprendre ce qu'est l'humour juif. Mais ça va aussi dans le même sens. Voilà donc la première source. Alors nous allons voir tout de suite la deuxième, dans Rashi, qui cite ce même Sifré, qui va faire objet d'ailleurs de la controverse avec intérieur aussi à Maïmonide, et qui dit ceci. Alors cette fois c'est sur le verset « Ve'ayu advari ma'ele » et seront ces paroles que je t'enseigne aujourd'hui. Ah, j'ai le même problème avec la... sacrifier.
Elle est là, elle est là.
Alors, Rachid nous dit, le verset 6, « Umahu ha-ahava » Réponse, ça c'est la question, « Umahu ha-ahava » Et en quoi consiste cet amour ?« Mahu ha-ahava » Où sera, où est cet amour ? Quoi de cet amour ? Réponse, « Ve'ayu advarim ha-el » Seront ces paroles-là que je te prescris. Shemitorkach. Et c'est ça qui va faire problème. Qu'est-ce que c'est que ce kach ? Shemitorkach, du dedans de cela. Atamakir be'akadosh baruch hu. Ou mitdabek, medabek, il y a écrit mitdabek. Bizarre. Voilà, la lecture finalement n'est pas difficile, mais c'est le problème que cela pose. Umahu ahava, et quel est cet amour dont on a parlé précédemment ? Ve'ahavta, tu aimeras. C'est et seront ces paroles que je te prescris aujourd'hui sur ton cœur. Ve'ayodvarimaele, shemitorkar, parce que c'est du dedans de cela, atamakir ve'akadoshbaruchu, que tu connaîtras. Reconnaîtra, ça veut dire les deux choses à la fois en français, les hakir, connaître et reconnaître, savoir qui c'est. En Akadosh Baruch Hu, en Dieu, ou d'avec l'idracham, et tu t'attacheras à ses voies, à ses, donc à ses commandes. Alors qu'est-ce que c'est que ce kar, mitor kar, du dedans de cela, du dedans de quoi ?
De ses paroles.
De ses paroles, apparemment.
Ben oui.
Okay.
Du message des paroles.
Voilà donc, selon le sifré que cite Rashi, l'ordonnance de l'enseignement pour nos problèmes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et si tu demandes, mais comment je vais l'aimer ? Qu'est-ce qui me mènera à cet amour ? Alors seront ces paroles que je t'enseigne sur ton cœur. À travers ces paroles, tu arriveras à l'aimer. Et nous revenons à l'analyse précédente. Et qu'est-ce que ces paroles ? En fin de compte, toute la Torah. Et voilà pourquoi j'avais commencé par cette analyse dans l'introduction, parce qu'il est évident que ce sifré utilise le mot Hadvarim Ha'eleh plutôt dans son extension la plus large, toute la Torah, que dans son extension la plus simple, le mot Echad, à travers tous les degrés que nous avons vus, n'est-ce pas ? À mon sens, c'est la même chose. Un étant explicite et l'autre étant implicite. Je veux dire, dans le mot Echad, si j'ai la connaissance, il y a toute la Torah. Mais rares sont ceux qui pourraient, avec le mot de Echad, avoir cette connaissance présente à l'esprit, explicite. Et je vous citerai le cas que je vous avais dit, le Kretschmar de Rabbi Yehuda dans la Maseret Brachot. Voilà comment on s'est raconté dans la Maseret Brachot. Mais vous comprenez l'idée. Hein ? Ça veut dire que si tu as cette connaissance de ces paroles, alors, du dedans de cette connaissance, tu arriveras à savoir qui est Hachem, mais cette connaissance a connu cette parole avec la même chose. Vous voyez la organisation du livre. Voilà, on raconte que Rabbi Yehuda enseignait la Torah du matin au soir. Alors, il y avait une discussion dans l'académie sur le classement. Et alors, Rabbi Yehuda a dit, mais c'est qui Rabbi Yehuda, il faut discuter du classement. Puisque l'enseignement va être. On discute de façon très précise.